Mais pour l'instant, on parle avec... en fait, c'est son grand retour. C'est Éric
Duhaime
qui revient, le chef du Parti conservateur du Québec, qui est en studio avec nous autres. Salut, Éric.
Bonjour, Yannick.
Très content de te parler. T'étais où? Mais tu nous as manqué.
On voulait
te jaser. T'es un gars qui est très corrosif d'habitude. Fait qu'on
ça
dit,
prend des vacances, les politiciens.
Ce dossier-là, ça nous prend Duhaime. Là, j'achalais ton gars de communication. Il est où, Éric? Il est où, Éric? Puis il disait, non, il n'y a pas d'entrevue aujourd'hui. Il n'y a pas d'entrevue aujourd'hui.
C'est
t'as le meilleur
gars
de communication de la Terre.
Il fait juste dire non. Mais non, j'ai pris des vacances. Écoute, j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant plusieurs semaines. Fait que j'avais besoin de remettre un peu d'énergie dans mes batteries. Et c'est ce que j'ai fait là, dans les derniers jours. Puis là, aujourd'hui, effectivement, là, je ressorte ça à la glace.
Ouais. Quand tu regardais la commission Galant à télé, t'avais-tu le goût de revenir, même si t'étais en vacances?
Bien, c'est sûr, d'une certaine façon, là, t'as le goût de commenter, mais en même temps, tu sais... La commission Galant, c'est important de faire cet exercice-là. Là. C'est important de savoir qui a menti. Puis bon, on a quand même perdu là, des centaines de millions de dollars comme contribuables. C'est pas mineur ce qui s'est passé là. Mais c'est un peu ça, l'observation conservatrice aujourd'hui. Puis pas juste sur la commission Galant, mais sur NordVolt, qu'on a annoncé la même journée où on a perdu plus de 500 millions. Ou sur le 1,2 milliard de dépassement de coûts sur 14 chantiers d'hôpitaux aussi, qu'on a appris la même journée. Tout ça, là, cette semaine, là. Les trois nouvelles que je viens de vous donner, c'est des milliards là, qu'on a perdus. Là. Et à un moment donné, il faut se dire, c'est pas juste un remaniement ministériel que ça prend. C'est pas juste un changement de gouvernement que ça prend. Ça prend un changement de modèle au Québec.
Il y a plein
de choses. Notre modèle ne fonctionne plus.
Éric Duhaime, il y a plein de choses. Moi, voir une vice-première ministre qui se fait prendre à mentir à la commission Galant, elle se dit « Ah, je m'en souvenais plus », elle essaie de s'en sortir comme ça, mais elle a menti en disant qu'elle l'avait appris avec le vérificateur général, alors que finalement, il a mis un courriel d'en face en disant « Vous saviez très bien que ça allait mal, ce dossier-là ». Elle a menti. Ça, je trouve ça atroce. Puis qu'elle s'en sorte comme ça, de cette façon-là, je trouve ça encore plus atroce. Il va y avoir un remaniement ministériel. On va perdre la vice-première ministre à Québec. On va probablement perdre le ministre responsable de la grande région de Québec. On va nous en nommer un autre. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui s'arrive ça de Bernard Drinville ou que ce soit quelqu'un dont on n'entend jamais parler, qui est peut-être bien sympathique, mais M. Paradis, qui pourrait être annoncé comme responsable de la grande région de Québec pour ce qui est du gouvernement. Donc, il y a ça. Après ça, c'est la perte de milliards de dollars et je ne note aucune empathie d'aucun politicien de la coalition Avenir Québec sur ce dossier-là. Ces gens-là, c'est comme s'ils n'avaient absolument rien perdu. Là. Mais moi, je travaille fort. Là. Excuse-moi, j'envoie énormément d'argent au gouvernement.
Tout le monde qui nous écoute fait ça. Là.
Moi, je suis un donneux d'argent.
Oui.
Okay? J'en pompe pas encore. Je vais en pomper, mais que je sois vieux puis que je sois à l'hôpital. Là. Mais je fais juste donner de l'argent. Eux autres la mettent dans des trucs sans nécessairement être bien impliqués. Puis, pas d'émotion. Ah, écoutez, regarde, qui n'essaye rien n'a rien. Attends un peu, là. Toi, t'as perdu combien? Parce que moi, j'en ai perdu beaucoup d'argent là-dedans. Aucune empathie envers l'argent du contribuable.
Pire que ça, ça a pris 19 heures entre le moment où le gouvernement du Québec a annoncé qu'il avait perdu entre 5 à 700 millions de dollars de NordVolt pour qu'il annonce 19 heures plus tard qu'il allait remettre 150 millions dans Nemaska Lithium. Un autre patente à gosse de la filière batterie où le gouvernement a déjà mis plus d'un milliard dans cette entreprise-là et où on risque de se ramasser encore gros gens comme devant.
Oui, mais Christopher Skeet l'a dit hier, ça va bien, Bécancour.
Ah, ça va super bien. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés. Écoutez, il faut comprendre, je reviens à mon exemple de tantôt, là, c'est le modèle qui est problématique. C'est pas le rôle du gouvernement de gérer des business de batterie. C'est pas le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer qu'au Québec, là, on a un climat de travail qui fait que les entreprises ont intérêt à venir s'établir
ici. Exactement.
Pas de choisir des gagnants puis des perdants puis de taxer à mort du monde comme nous autres pour donner ça à des compagnies qui font faillite puis qui détournent l'argent.
Exact. Tu sais, Donald Trump, ce qu'il a fait l'autre bord, c'est qu'il a descendu l'impôt des entreprises. Ça fait en sorte que pour les entreprises de l'extérieur qui veulent s'établir à quelque part, ils regardent les impôts au Canada, ils regardent les impôts aux États-Unis puis ils disent « Oh, tabarouette, il y a un bel endroit là où je peux aller m'établir puis les impôts sont moins élevés, peut-être un meilleur service aussi au niveau des entreprises puis peut-être un peu moins aussi un enfer bureaucratique. Ici, ce qu'on me dit pour ce qui est des hommes et des femmes d'affaires, au Québec et à la grandeur du Canada, c'est compliqué de faire affaire avec les gouvernements.
Oui, toujours beaucoup de paperasse, beaucoup de contrôle. On aime ça avoir le gouvernement qui contrôle, qui taxe, qui prend le compte. Tu sais, regardez juste la SAC, là. Ça serait le temps, là. Oui, c'est le fun là, d'entendre M. Legault puis de savoir lequel à la CAQ est le plus menteur là, puis de jouer à ça toute la journée. Là, c'est bien drôle. Là. Mais ça serait le fun aussi qu'on se pose la question... La SAC, là, c'est 5 000 employés. On a-tu encore les moyens de se payer ça au Québec? On pourrait-tu faire comme, par exemple, en France, puis que quand tu as ton permis de conduire, ben tu le payes la première fois, puis après ça, tu n'as pas besoin de le renouveler à tous les ans. Là, tu l'as dans ton portefeuille, comme ton numéro d'assurance sociale, puis tu le gardes jusqu'à la fin des temps. Puis ça se pourrait-tu que, comme en Allemagne, quand on va acheter une auto, ben on achète une plaque une fois, puis on l'a sur l'auto jusqu'à temps que l'auto rende l'âme, puis qu'on le paye une fois, puis qu'on n'a pas besoin de la SAC. Ça se pourrait-tu qu'on fasse comme en Ontario, puis qu'on regroupe tous les services du gouvernement, que ça soit un permis pour aller faire de la chasse ou un renouvellement, justement, de n'importe quoi qui a rapport avec ton auto, qu'on aurait ça dans Service Québec, qui coûterait une fraction du prix, puis qui offrirait bien plus de services que juste l'automobile. T'sais, on pourrait pas utiliser cette occasion-là. On a perdu 1,1 milliard. Là. On peut-tu prendre ça pour faire quelque chose de constructif? On peut-tu réfléchir en dehors du modèle étatique bureaucratique que les quatre partis à l'Assemblée nationale défendent à tous les jours?
J'avais jasé avec Steve Warehouse, qui est un expert en cybersécurité, puis j'avais dit, Steve, c'est-tu possible d'acheter des logiciels qui ressemblent un peu à sa clique puis l'adapter à nos ordinateurs, à nous? Puis ce qu'il disait, c'est que, tu sais, il disait, Yannick, c'est parce qu'on a tellement de systèmes et de logiciels qui se parlaient pas, que ça devenait extrêmement complexe d'aller chercher l'expertise ailleurs puis l'amener directement chez nous puis l'adapter. Fait qu'ils ont trouvé une solution pour eux autres pour que toutes les machines puissent se parler. Et cette solution-là que nous autres, on a trouvé qui nous a coûté plus $1 milliard, ben on pourra pas la revendre ailleurs dans le monde parce que c'est notre système à nous. On est indépendant. On fait juste nos affaires entre nous. Mais ça clique, là. C'est un site web transactionnel, là.
Ça a coûté 1,1 milliard.
Je veux dire, on demande pas de bâtir une machine pour aller sur Mars, là. On demande un site web transactionnel où les gens vont pouvoir faire leurs transactions en toute sécurité. Ça existe partout dans le monde. Les plus grandes banques de la Terre ont ce type de site web-là transactionnel.
Puis ça leur coûte pas une fraction de ce que
ça
a coûté là.
Ben non.
Est-ce que c'est la preuve qu'on n'a pas assez d'expertise à l'interne au gouvernement pour se faire flouer de même?
Ça, c'est l'autre affaire, l'autre danger. C'est que là, présentement, les syndicats essayent de dire que c'est à cause du fait qu'on n'a pas assez d'expertise à l'interne puis qu'il faut engager encore plus de fonctionnaires. D'abord...
Moi, je voyais pas plus de fonctionnaires.
Non, mais je vois ça comme ça.
Remplacer ceux qui n'ont pas assez de compétences par ceux qui vont avoir des compétences.
Parce que là, après, un coup que ton site web est fait, là, tu fais quoi avec les fonctionnaires qui étaient affectés à ça?
Il y a tellement de projets.
Oui, mais souvent, là,
tu vas me dire que ça marche par ministère, puis ils ne peuvent pas transférer.
Puis là, comment tu fais? Puis c'est pas des mêmes enveloppes budgétaires. Je veux dire, il faut penser. En Ontario, là, ça a coûté, je t'ai parlé de Service Ontario, là, ça a coûté 100 millions leur site transactionnel. Puis c'est pas juste pour l'assurance automobile, c'est pour tous les autres services que le gouvernement a.
100 millions.
Ils l'ont mis sur 10 ans. OK, il y a un phasing-in. Ils n'ont pas fermé pendant 3 semaines les services à la population. Puis c'est des exemples comme ça, il y en a plein. Là. Je veux dire, partout dans le monde, là, tout est en train de s'informatiser. Toutes les entreprises font ça, des sites transactionnels. Il n'y en a pas une qui paye 1,1 milliard pour une affaire de même. Là. Il faut qu'à un moment donné, on se réveille. Si une entreprise avait fait ça, elle ferait faillite, c'est sûr.
Toi, tu as été dans l'appareil longtemps en politique, là. Ça t'a-tu surpris, la commission Galant, où tu t'aperçois que le premier ministre semble pas être au courant de grand-chose, alors qu'il y a une revue de presse faite par Jean-François Dumas d'Influence Communication qui lui rapporte à tous les jours les nouvelles qu'il doit absolument lire pour faire son travail. Il se présente à la commission Galant, il dit « Ah, moi, j'étais pas au courant de ça. » Martin Koskinen, qui est pas mal son bras droit, qui dirige le Québec, « Ah non, moi, j'étais pas au courant de ça. » Alors qu'il y a la même maudite revue de presse. On en parlait dans l'actualité des dépassements de coûts. Le milliardaire qui a tweeté, qui est un
Mitch Garber.
Qui est une bonne connaissance de François Legault, qui parlait des dépassements de coûts dans le dossier de sa clique. Ça a tellement fâché François Legault qu'il a dit à son équipe, « Hey, trouvez une façon de lui répondre, là. » Mais il n'a pas pensé à savoir si le tweet de Mitch Garber, ça avait du sens. Le premier ministre est un menteur à mes yeux, à moi. C'est quelqu'un qui nous a menti sous serment à la commission Galant. J'espère juste qu'un jour, on aura la vérité.
Écoute, moi, j'ai pas de preuve qu'il nous a menti, mais je peux te dire une chose, c'est qu'il a menti à l'ensemble des Québécois quand il nous a dit qu'il allait faire une réforme du scrutin, quand il nous a dit qu'il allait faire un budget équilibré, quand il nous a dit qu'il y aurait 2 hôpitaux privés, quand il nous a dit que... Écoute, je pourrais continuer à la liste quand il nous a dit qu'il allait exploiter notre gaz puis notre pétrole au Québec, quand il nous a dit... Je veux dire, François Legault a menti à répétition aux Québécois. Ça serait pas la première fois, malheureusement, que le premier ministre aurait menti. Mais il y a quelque chose qu'il a dit à la commission qui, pour moi, est important. Je vais citer la phrase textuelle. Il a dit « Pour moi, François Legault, c'est important qu'il y ait de l'imputabilité, qu'il y ait des conséquences pour ces personnes. » Il parle du fiasco de sa clique, évidemment. Mais ça va être quoi les conséquences? Est-ce que son chef de cabinet qui dit textuellement, sous serment, qu'il l'a échappé, est-ce qu'il va avoir une conséquence? Est-ce que ce gars-là va se chercher un job? Il est en train de faire son CV et ses boîtes présentement? Est-ce que Mme Guilbeault...
Mais tu ferais quoi avec un adjoint qui fait une erreur majeure de même? Tu le crises dehors?
Bien, il me semble que...
Parfait.
Tout le monde qui
Non, pourquoi mais attends, il garde? Pourquoi? Parce qu'il conserve le même secret.
Bien, c'est parce que tu dis, il savait-tu, puis
c'est
l'autre, il a servi de buffer.
Exact.
Puis tu sais, Geneviève Guilbeault, je veux pas vous faire de peine, là, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que la semaine prochaine, il va renommer ministre ailleurs. Je ne pense pas qu'elle va se promener à pied. Là. Elle va être encore en limousine la
c'est
semaine prochaine.
C'est fini son rôle de vice-première ministre du Québec. Ce serait Sonia Lebel qui prendrait
la
place.
Il va lui donner un autre ministère,
ça
pauvre toi.
Ça serait peut-être la dame Frégette aussi là, qu'on entend jaser. Ils vont lui donner
Yannick,
un petit ministère.
Avoir le même salaire et la même limousine.
À sacré en dessous du char, le premier ministre.
Sais-tu pourquoi il va la laisser là?
Il ne veut pas perdre la face?
Il ne veut pas qu'elle soit une Chrystia Freeland. Parce que si jamais... il l'humilie puis il l'envoie ses banquettes arrière. Parce que François Legault, là, c'est pas normal là, qu'un parti qui est en décrépitude comme le sien. Écoute, moi, je sors d'une élection dans Tabasco où il est passé de 52 à 7 % là. On s'entend-tu qu'ils ont perdu un petit peu de plume? Là.
Ouais.
C'est pas normal qu'il n'y ait pas une personne qui dise « là, c'est peut-être le temps de changer de boss ». C'est dans n'importe quelle organisation, quelqu'un qui est à la tête puis que ça s'écroule comme ça, il y a du monde qui lève la main puis qui dit « là, ça n'a plus de bon sens, faut le remplacer, celui-là, il n'est pas bon. » Il y aurait des actionnaires dans une compagnie qui diraient « le président, il fait pas sa job, on en nomme un autre. » Comment c'est qu'il n'y en a pas un qui s'est levé encore? Puis parce qu'il contrôle la communication interne puis il essaie de tenir ça serré présentement. Puis la façon de s'assurer... Imagine s'il tasque Geneviève Guilbeault puis Geneviève Guilbeault décide qu'elle tente un putsch contre Legault. C'est ça qui arriverait. Là.
Ben, elle l'a déjà fait. Là. C'est la raison pour laquelle elle a été tassée de la grande région de Québec. Là.
Oui, puis c'est pour ça qu'ils ont peut-être donné des dossiers merdiques pour essayer de la brûler à moyen terme, puis c'est en train de fonctionner.
C'est là. En train de scraper sa carrière politique, elle l'a. Là.
J'ai oublié ça. Là. C'est,
elle va faire comme toi. Là. Elle va être en politique, elle va aider les médias un peu, puis après ça, elle va revenir en politique.
Je ne sais pas si c'est ça qu'elle va faire, mais j'ai l'impression qu'il ne passera pas en dessous de l'autobus. Moi, je pense qu'il va lui donner un autre ministère. Puis qu'elle va
tourisme?
Avoir... Je sais pas qu'est-ce qu'elle va avoir, mais ils vont y donner de quoi. Elle va se promener en limousine la semaine prochaine.
Affaires municipales?
Tu parles d'Artabasca.
Oui.
Tu as pris des vacances après Artabasca.
Oui.
À quel point ça t'a fait mal, cette défaite-là?
Écoute, c'est sûr que j'ai été très déçu. Vous l'avez entendu, je pense, le soir de l'élection. Pour toutes sortes de raisons, là, j'y ai vraiment cru. Puis je pense que c'était important que le Parti conservateur, qui a un message totalement différent des autres partis, puisse être entendu. Je l'ai dit souvent. Cela étant dit, prendre des vacances, justement, ça laisse retomber à poussière, puis ça te permet d'analyser ce qui s'est passé. Je note que le Parti conservateur, là, en 2018, on avait eu 2 % dans Arthabasca. En 2022, on a eu 24 % puis ce mois-ci, on a eu 35 % Donc, je vois quand même qu'il y a une progression. La raison pour qu'on ait été battu, c'est pas compliqué, là. C'est que les quatre partis sont ensemble. Je veux dire, si tu regardes ça, QS est passé de 9 à 1 % Les libéraux qui étaient à 15 % une semaine avant, on finit à 9. La CAQ est passée de 52 à 7. Ils se sont tous mis avec le PQ. Et si je parlais avec Pierre Poilievre, même dans les jours qui ont suivi, puis on est arrivé au même constat. Il est arrivé à la même chose qu'à nous autres que ce qui est arrivé à Pierre Poilievre. Je veux dire, les forces du statu quo se mettent toutes ensemble pour empêcher le changement. Et c'est bizarre, là. Pensez-y, là. Il y a des gens, là, puis au Québec, on l'a vu, là, des souverainistes qui se sont bouchés le nez puis qui ont voté pour le Parti libéral du Canada pour empêcher les conservateurs de gagner. Ouais. Là, sur la scène québécoise, on a vu l'inverse. On a vu des fédéralistes libéraux rouge-tomate se boucher le nez puis voter pour le PQ pour empêcher les conservateurs de gagner dans Arthabasca. Là. C'est ça qui s'est passé. Et
dans
ça, c'est un nouveau paradigme politique.
Dans ce
là.
Contexte-là, qu'est-ce que ça va te prendre pour passer?
Bien, je pense pas d'abord que ce genre de stratégie-là fonctionne à grande échelle. Là. Ça peut fonctionner dans un comté, mais ça peut pas fonctionner à la grandeur du Québec. Là.
Mais je considère pas ça comme une défaite. Oui, tu n'es pas rentré à l'Assemblée nationale, oui. Là, mais je regardais, là, les grosses villes, ils ont voté Alex, puis toi, tu as tout remporté la périphérie autour.
Oui.
C'est pas une défaite.
On a remporté la MRC de l'Érable, on a remporté... 12 ou 13 des 16 municipalités. C'est Victoriaville où on a perdu. Fait que ça, t'as raison, c'est une belle progression.
Tu couvres pas mal plus de territoire que lui peut en couvrir.
Ah, c'est sûr. Eux autres sont concentrés dans le centre-ville de Victo. Fait que c'est sûr que si ça avait été le territoire gagné, on passait à la gratte, là, parce qu'on a gagné toutes les municipalités autour. Et ça, c'est un progrès. Puis le fait aussi que... C'est niaiseux, là, mais t'sais, nous autres, on a 1 % de la couverture médiatique au Québec. Hein, le Parti conservateur, même si on représente 14-15 % de la population, on a 1 % de la visibilité médiatique. Dans cette élection partielle-là, on a eu beaucoup plus que ça. Là. Ça nous a permis d'avoir de la visibilité comme on en a rarement. Puis ça permet aussi de démontrer qu'on est l'alternative au Parti québécois dans les régions du Québec. Et ça, c'est pas négligeable. Là. On n'a jamais été ça. Là. Et la CAQ est en train de se diluer puis se liquifier. Je sais pas comment dire ça. On n'a jamais vu ça. Là. Essayez pas de trouver un précédent au Québec. Là. Un parti qui est au pouvoir, qui dégringole à une vitesse aussi folle, on n'a jamais vu ça. Deuxièmement, QS, je veux dire, ils sont plus là. L'effet Pablo, il se fait pas sentir dans le Québec francophone. Donc, le dernier rempart contre un référendum perdant du PQ, là, c'est le Parti conservateur du Québec. Et je pense que ça, pour nous autres, pour la prochaine élection québécoise, c'est aussi quelque chose qui peut être encouragé.
Serais-tu le chef de la coalition du non?
Écoute, moi, je suis pas dans un camp du oui ou du non. Moi, je veux pas que le Québec soit divisé. Moi, je veux être que le Québec soit uni. Moi, je veux être dans la coalition du Québec.
T'es un nationaliste ou non?
Pour avoir plus de pouvoir pour le Québec.
T'es un nationaliste.
Moi, je suis très nationaliste. Ouais. Je suis Québécois d'abord et avant tout.
Mais t'as été dans l'ADQ de Mario Dumont qui était dans le camp du oui. Tu es souverainiste ou non?
Ce que je viens de te dire, c'est que je ne pense pas qu'on ferait avancer les intérêts du Québec puis le pouvoir québécois avec un troisième référendum perdant. Je vais tout faire pour pas qu'il y ait de référendum. Vous avez entendu ce que Lucien Bouchard a dit récemment. Je pense que c'est des sages paroles. Malheureusement, Paul Saint-Pierre Plamondon ne l'écoute pas encore. Je pense qu'il va reculer personnellement. Là, je pense qu'à un moment donné, il n'y aura pas le choix de reculer parce que c'est totalement irresponsable, la position du Parti québécois à l'heure actuelle. Je vais vous donner l'exemple d'Arthabasca. Dans Arthabasca, là, il y a 30 % de souverainisme. Le Parti québécois a eu 46 % des votes. Il y a près de 40 % des gens qui ont voté Parti québécois qui voteraient non à un référendum. Je veux dire, c'est pas vrai qu'il y a quelque chose présentement qui est en train de se produire. Il faut dire aux gens que le voter pour le PQ, c'est un référendum. Il faut que les gens se réveillent, puis réalisent qu'il y a une menace. Puis même hier, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Christian Dufour signait une très bonne chronique dans Le Devoir où il explique comment un échec référendaire serait terrible pour le pouvoir québécois, puis comment il faut tout faire pour pas qu'il y ait de référendum. Et moi, je suis de cette école-là.
Dans ton discours de défaite après Arthabasca, Est-ce que tu as été trop émotif? Quand tu regardes ça aujourd'hui, trouves-tu que tu as été trop émotif, puis que tu aurais dû être plus posé, puis moins revenir tout de suite et qu'on a manqué une occasion de changer la démocratie au Québec?
Ben écoute, moi, là, mon slogan, c'était du vrai, puis je suis vrai. Puis ce soir-là, j'étais déçu, puis vous l'avez vu. J'ai pas fait comme Jack Layton, commencer à sourire puis à faire le party alors que mon parti venait de connaître une dégringolade historique comme le NPD en a connu nos dernières élections fédérales. Là. Moi, ça m'intéressait pas de faire semblant que j'avais gagné puis semblant que j'étais content, je l'étais pas. Et vous avez vu vraiment ce que je pense puis ce que je dis, ce que... Vous avez vu mes émotions. Puis oui, je considère encore que ça a été une occasion manquée. C'est pas normal que dans un État démocratique comme le nôtre, qu'il y ait plus d'un demi-million de Québécois, qu'il n'y ait pas un siège sur 125. C'est pas normal qu'un Québécois sur 8 a 0 sur 125. C'est pas... On vient de parler du modèle québécois. Là. On est les seuls qui avons une vision différente. Puis aujourd'hui, là, je prépare à l'Assemblée nationale pour en parler.
Mais c'est pas la faute d'Arthabasca, ça. Puis c'est un peu le point qui revenait. C'est qu'on dirait que c'était comme... C'est votre faute si je rentre
j'ai
pas à la...
J'ai jamais blâmé personne. Là.
Mais
ce que
ça sonnait le même.
Ce que je disais, c'est que ça a été une occasion historique qu'on a perdue. Parce que c'est pas juste le Parti conservateur qui a perdu dans Arthabasca, c'est la démocratie au Québec. Parce qu'on avait une occasion à ce que ça change. Puis je vais vous donner un exemple.
Oui, mais en même temps, ça repose pas sur les épaules des électeurs d'Arthabasca.
Non, mais je vais vous donner un exemple bien niaiseux. Là. Ils vont faire pour le référendum de 95, là, on arrive au 30 ans, à l'anniversaire du 30e anniversaire du référendum. Ils ont fait un topo, là, ils ont fait un documentaire Radio-Canada, puis ils ont interviewé tous les chefs, OK, par rapport à l'enjeu constitutionnel, puis où on était en 95, puis tout ça. Bien, Christy, ils ont fait ça dans le hall de l'Assemblée nationale. Fait que là, j'étais arrivé pour rentrer à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas voulu me laisser rentrer, OK, pour que j'aille filmer comme les autres. Il a fallu qu'on loue une chambre d'hôtel de l'autre bord de la rue. Puis qu'on...
Un très bon coup, ça.
T'sais, pensez-y deux secondes. Là. On parle de la démocratie, on parle d'un moment historique démocratique, puis on empêche un chef de parti d'aller avec les autres chefs expliquer ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est totalement... là. Méprisant dans l'attitude de nos parlementaires à l'heure actuelle par rapport au Parti conservateur du Québec. Puis moi, je suis un optimiste de nature. Là. Je pense qu'à un moment donné, ça va payer dans le sens que les Québécois vont allumer, vont dire là, ça n'a plus de sens. Ouais. Puis même le dernier sondage léger le soulignait. Là. Il y a une majorité de Québécois qui souhaiteraient qu'on rentre à l'Assemblée nationale.
Ouais. Mais c'est à l'image. Tu sais, ce gouvernement-là est à l'image de ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est-à-dire que le peuple, on s'y intéresse très peu. Là, juste te dire que tu jasais avec un souverainiste. Bon. Là, fait que, puis le show de souverainiste à 10 h, c'est le show à max. Fait que tu seras
ça. Invité à débattre avec Puis Max
moi,
sur la
moi, mon boss m'a décrit comme étant quelqu'un de gauche dans les médias.
Ah oui, j'ai lu ça.
Fait que tu vas
te faire brosser à la station.
Éric Duhem. Faut que je joue mon rôle de gauchiste. J'ai pas le choix.
Fait qu'un gauchiste, un souverainiste, ça va bien.
Avec Marceau.
Avec Marceau. T'as changé, mon cher. Il y a
un go. Puis un go au centre. Hey, là, tu vas. T'entends?
Au centre?
Moi, je suis au centre.
OK.
Il est au centre du studio, en tout cas.
Exactement.
Ouais. C'est ça que vous voulez dire.
Centre droit en économie, mais pour le reste, je suis à peu près au centre. Ouais. Je déteste juste les extrêmes.
Ouais, mais je te dirais que le même patron t'a décrit dans les médias comme quelqu'un de droite.
C'est vrai.
Non, mais ça peut être centre droit.
Mais il parlait juste. On allait faire un bon duo droite-gauche, allait se coltailler.
Il parlait juste de la droite religieuse. Il n'était pas là du tout.
OK.
Éric Duhem, là, il reste à peu près un an avant les prochaines élections. Est-ce que. Moi, c'est ma demande, là. Je veux savoir. Je vais-tu voir plus Adrien? Je vais-tu voir plus Dr. Karim Elayoubi, que j'adore, un excellent communicateur, un excellent pédagogue aussi? Je vais-tu les voir plus?
C'est vous autres qui allez décider. Gars, aujourd'hui, je fais une conférence de presse dans une heure et demie. Je vais être avec Adrien Pouliot. La semaine passée, Karim Elayoubi est sorti sur les prières de rue. Puis, tu sais, on veut en faire beaucoup plus. Mais c'est pas toujours évident. T'sais, moi-même, j'ai de la misère à avoir un micro. Imaginez les gens qui sont les porte-parole du parti, c'est encore plus difficile. Mais on va tout faire pour effectivement mettre notre équipe en évidence. On a la chance d'avoir des grands talents dans le parti. T'sais, en matière de santé, il n'y a aucun parti qui peut se vanter d'avoir quelqu'un comme le Dr Elayoubi pour parler de la réforme du système de santé au Québec. Puis t'sais, en matière économique, là, au PQ, là, ils ont des croûtes à manger avant d'avoir quelqu'un comme Adrien Pouliot.
Exact.
Donc,
fait qu'on va les voir plus dans les prochains mois.
C'est sûr qu'on va les voir plus, mais en même temps, c'est pas moi qui contrôle.
Tu vas-tu greffer d'autres membres dans ton équipe?
Oui, il y en a déjà qui tranquillement commencent à se faire voir un peu sur différents enjeux. Je vais faire. Je ne vais pas te donner de scoop sur quel sujet, mais dans 2-3 semaines, je vais faire une sortie avec Jonathan Poulin, qui avait été notre candidat aussi dans Beauce-Sud. Il y en a une autre aussi qui s'en vient en énergie, peut-être avec Marie-Josée, Élie. Donc, il y a des gens tranquillement là, qui commencent à émerger.
C'est vrai que si tu avais gagné dans Tabasco, Youri Chassin arrivait au PCQ?
Bon, écoute, il y a plusieurs hypothèses, là, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que si on avait gagné dans Arthabasca, ça aurait effectivement déclenché un mouvement. Puis je sais qu'il y a des gens à l'Assemblée nationale qui auraient été plus confortables. Parce que, puis je les comprends, là, parce qu'ils ont vu le précédent de Claire Samson. C'est pas facile de te lever puis d'être le premier à briser la ligne, puis traverser, puis s'en aller siéger comme conservateur. Claire Samson, c'est une femme qui est très forte de caractère, qui a été capable de le faire. Il y a des gens qui ont plus de difficultés. Surtout avec la pression puis avec le tout ce qui vient avec, là, tout ce que le gouvernement puis les autres partis font subir aux conservateurs. Donc, je comprends que ça a été plus difficile. Si j'avais été là, ça aurait été beaucoup plus facile pour bien deux autres de traverser et venir me rejoindre.
Éric Duhem, bon retour!
Merci beaucoup!
Bye-bye!
Salut!
Bonne fin de journée, tout
Nous,
le monde!
Nous, on fait une courte pause. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Merci d'être nos yeux, nos oreilles.
Il s'en passe des affaires sur la route. Le bordel est pogné. Secteur des ponts encore à 8h45. L'excessivement difficile. 20 Est, ça va un petit peu mieux. 73, ça bouche encore à peu près à la hauteur de rue Beaulieu. 20 Ouest, entre mi-chemin, entre route du président Kennedy et chemin des îles jusqu'au pont. C'est pas facile. Capitale Ouest, entre, je vous dirais, mi-chemin entre Beau-Royal et Seigneurial jusqu'à Laurentienne. C'est tôt rouge. Arcade-Sud, petit ralentissement encore qui se fait sentir. Hauteur Chauveau-Ouest.
On reçoit Olivier Bossé, journaliste au Soleil, qui va parler de dossiers sur l'itinérance. Ça va être franchement intéressant. Et vers les entours de 9h15, 9h20, c'est mon chum Joe Bélanger qui va passer en studio avec l'homme d'affaires Pat Lessard. T'as-tu déjà été voir le show Anastasia, hommage à Metallica, à l'Orchestre symphonique de Québec, mon ami?
Non, mais ça a l'air, c'est quelque chose.
Ça s'en vient. C'est le 13 novembre qui s'en vient. Il reste à peu près 300 billets de vendus. Moi, j'ai vu Nirvana, puis je m'attendais à rien. Tu sais, je savais que Joe, il faisait quelque chose de bien avec Pat à l'Orchestre symphonique. Puis je suis allé voir ce show-là. Puis à tout jamais, je vais être redevable de Joe d'avoir, avec Pat bien entendu, d'avoir créé ce spectacle-là. On va jaser avec les producteurs de ce spectacle-là, c'est à ne pas manquer. Puis on va avoir un dossier aussi sur la fameuse DPJ, coroner Guéane Kamel, qui a rendu public son rapport, un rapport quand même assez étoffé. Puis il y a Nancy Audet qui s'est prononcée, elle était dans le retour hier, si je ne me trompe pas.
Hein. Oui, exactement, Nancy Audet qui est une spécialiste justement, elle a créé un un organisme communautaire qui prend soin des jeunes qui quittent la DPJ à 18 ans avec des sacs de vidange. On leur dit « Dehors, puis organise-toi. »
Elle, c'est une ancienne journaliste.
C'est une ancienne journaliste, c'est une auteure, compositrice, conférencière et également une ancienne enfant de la DPJ. Donc, elle a vécu l'enfer.
Donc, c'est à ne pas manquer un dossier complet avec Jeff dans les prochaines minutes.
Marceau le matin.
Marceau le matin.